c'est pour les EPN, donc les centres numériques bénévoles où vous pouvez vous connecter et puis apprendre une multitude de choses sur le numérique.
La matinale vous rend moderne.
Bravo, voilà, merci Alessandra, merci pour toutes ces infos.
Comme chaque matin, avec plaisir, Bruce.
C'est Suzy Delair qui jouait la femme de Louis de Funès.
Sans internet.
Bravo, sans internet.
Bruce, sans moteur. C'est une base de données.
Et vous vous souvenez qui était leur fille?
Ah oui,
c'était Miu Miu. C'était Miu Miu, la fille de Suzy Delair et Louis de Funès dans Rabbi Jacob.
Et c'est un internet à lui tout seul.
On m'a soufflé la réponse.
Mister Google.
Alors, voici donc, pour la première fois, donc 22 ans après la mort de votre père, je le disais, vous racontez votre père. Alors, ce qui m'a le plus surpris et intéressé dans le bouquin, c'est qu'on découvre à quel point votre père et votre mère, et aussi vous deux, votre famille, étaient unis, inséparables. Votre mère, elle le suivait partout.
Ah, partout.
Non, mais elle était un peu son agent, presque.
Elle était son agent.
C'est son agent.
Oui, oui.
Et puis, il voulait ça, hein.
Oui, mais je pense que chez beaucoup de gens, il y a des couples comme ça. Les vrais couples sont comme ça.
Non, mais quand on voit les clichés qu'on a sur les acteurs, sur les stars, tout ça, qui font un peu la vie, quoi, en tournée, tout ça. Maintenant, on l'a pas du tout.
Mais ça se ressent dans leur travail aussi.
C'est vrai.
Voilà, ils ne deviennent pas des stars, parce que toutes les grandes stars, souvent, ont une vie très, très privée, vous remarquerez. Ouais. Les Américains préservent ça terriblement.
Ouais. Vous avez eu envie de donner votre version, parce qu'il y a des choses qui vous ont énervé, hein, oui. Olivier, ouais, sur ce qu'on a dit sur le caractère de votre père.
Oui, c'est ça.
C'est surtout ça qui vous a énervé.
Il y a eu beaucoup de choses dites et écrites. En général, c'était assez juste sur la filmographie, etc., oui. L'histoire de son métier, de son talent. Quant à la description de l'homme qu'il était dans la vie, alors là, ils sont complètement trompés. Nous seuls pouvions dire, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, quel homme extraordinaire c'était dans la vie aussi.
Alors, bon, on disait quoi ? On disait que c'était quelqu'un de colérique,
oui.
De pas facile, de pingre aussi, c'est ce qu'on a entendu dire.
Oui, ça c'est ahurissant. Hein ?
Oui, voilà, ça c'est ahurissant.
Je l'ai découvert très récemment, en plus.
Donc on disait ça ?
Oui, je m'en rendais pas compte.
Et donc, c'était tout le contraire.
Vous corrigez donc ces fausses informations. Pourquoi 22 ans après sa mort ?
Parce que ça a coïncidé avec l'anniversaire. Vous savez, ils ont sorti de sa mort. Là, ils ont sorti pas mal de 2-3 bouquins ahurissants de gnangnantise et d'idiotie.
C'est vrai qu'il y en a eu un paquet.
Oui, on a appris qu'il berçait ses bouteilles de vin comme des bébés, par exemple. Parce que quand il voulait être gentil, ils le décrivent comme un gogol. Vous voyez, c'est un crétin qui prend des bouteilles de vin, qui les berce le matin.
Alors, l'explication quand même sur le côté un peu... vous dites qu'il ne faut pas confondre emmerdeur et perfectionniste. Mais quand même, sur un plateau de tournage, c'était quelque chose. Il était extrêmement maniaque. C'est ce que vous racontez.
Vous savez, depuis qu'on vient à la télévision, là on en a fait 2-3, je remarque que c'est un travail très précis et très strict, et je pense que ça barderait si quelqu'un se permettait ce que se permettaient quelques personnes à l'époque sur les plateaux.
Non mais sur son talent, sur sa façon de jouer, il pouvait refaire une scène. Vous, Olivier, vous l'avez vu, vous avez joué 6 films avec lui.
Oui.
Il pouvait... mettre du temps avant d'arriver à faire une scène, la faire refaire le lendemain.
Bien sûr, mais les gens ont toujours l'impression qu'un acteur comique, c'est d'une facilité enfantine. Les gens font souvent une erreur, d'ailleurs, quand ils rencontrent des gens dans la société qui sont drôles à un dîner, ils disent « Ah tiens, il ferait bien de faire acteur comique, ça serait formidable », mais pas du tout. C'est tout de même un métier, c'est tout de même une capacité à emmagasiner une énergie folle pour ressortir ça devant les caméras.
Inversement, est-ce qu'il était drôle dans la vie familiale, dans la vie privée ? Et ça, il était très marrant aussi.
C'est l'essentiel du livre, je pense, c'est que les gens ne s'imaginent pas qu'un acteur comique soit très gai dans la vie.
Ou alors il s'imagine qu'il fait le pitre.
Ou alors c'est ça,
voilà. Le pitre, il n'est pas du tout
ou alors qu'il est sinistre. Le mythe du clown triste, vous savez.
Il testait ses gags un peu sur vous, ou est-ce que vous étiez son premier public ?
Pas les gags, parce qu'il ne raisonnait pas par gag. Il raisonnait par intention, vous voyez. Il disait par exemple, je cite ça pour Le Grand Restaurant, je me souviens qu'il nous a raconté, il dit « j'aime bien les gens qui sont offusqués ». Alors s'il y avait un personnage dans Le Grand Restaurant qui dise tout le temps « mon Dieu », ça serait très drôle. Et donc il disait « voilà, alors il y a le thé n'est pas chaud, mon Dieu, vous êtes viré, mon Dieu ». Et voilà, il avait inventé ça comme ça à la maison. Mais c'était pas un gag, c'était, vous voyez, l'intention qu'il allait mettre dans le personnage.
Mmh. Enfin, vous racontez aussi, il y a des parties de pêche où il fait, où il crée des personnages quand même dans cette vie de tous les jours. Il se passait des choses comme ça.
Mais il rendait ça un petit peu comme une bande dessinée, comme un dessin animé, ouais. Si vous voulez, la vie. Il avait un tel recul qu'il dessinait tout de suite.
Mmh. Alessandra.
Vous êtes un peu l'exception qui ne confirme pas la règle, fils de, mais vous n'avez pas repris le flambeau.
Non.
Vous auriez pu, Olivier.
Olivier a fait
six. Oui, mais j'ai hésité longtemps, vous savez, j'étais passionné d'aviation.
Votre cœur balançait.
Donc j'ai mené de front les études et puis les films. Mmh. Enfin, de front, les films, je faisais ça en été, pendant les vacances. Mais bon, il faut se dire à un moment, il faut choisir et il faut être très lucide. Parce que lorsqu'on choisit un métier artistique, il faut être très très sûr de son talent. Ouais. Hein. Sinon, voilà, catastrophe.
Les pilotes aussi, il vaut mieux.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Oui, mais au moins ça s'apprend.
Et Patrick, vous êtes radiologue, ce qui n'a donc...
Au début, c'était de la... Maintenant, c'est numérisé, mais au début, c'était de la pellicule, quand même.
Oui, il y avait un petit rapport.
Oui.
Le moment où la carrière de votre père bascule, c'est quand il joue Oscar. En province et ensuite à Paris. Et c'est vous, Patrick, qui avez un peu incité.
À jouer à Paris, oui. Ouais. Oui, parce que bon, la province, ça a été offert comme ça, ça a été un succès phénoménal, mais ça n'a eu aucun retentissement à Paris. Et Oscar, quelques années avant, s'était complètement rétamé à Paris. Donc quand il a été question de reprendre la pièce à Paris, mes parents ne voulaient pas. Parce qu'il paraît qu'une pièce qui a eu un échec à Paris, ça ne marche jamais après. Et il ne pouvait pas prendre le risque d'essuyer. S'il avait essuyé un échec, sa carrière était terminée. Il était condamné au troisième rôle toute sa vie. Donc ils ont hésité des jours et des jours. J'entendais les discussions et un jour je suis intervenu parce que je ne comprenais pas. Moi j'avais vu en province, j'avais tellement ri que j'ai dit mais s'il s'appelait à papa, il n'a qu'à le reprendre. Et là, pof, ça a été décidé, il n'y a plus eu aucune discussion.
Et ça a été un triomphe.
Mais il prenait souvent des décisions comme ça. Hein. Très brutalement.
Ouais. Encore un mot, est-ce que vous regardez les films de votre père quand il passe à la télé? Vous suivez les audiences par exemple? Oui.
Il y en a un ce soir d'ailleurs.
Oui, il y en a tout à l'heure. Ouais.
Moi, les audiences, non, mais je les regarde, oui, j'en regarde, oui, souvent, ouais. Puis parce que je ris.
Mais c'est vous, par exemple, qui vous occupez des sorties DVD, tout ça?
Non, pas du tout. Pas du tout. Bah non, ils ne sont pas. De toute façon, ils ne sont pas à nous.
Ouais. Non, mais les fils de Claude François gèrent tout ça, par exemple.
Oui. Bah, nous, on a commencé, maintenant ça y est, mais c'était pour éviter les trafics. Mm. Parce qu'on abusait quand même de l'image. Si vous laissez faire aussi, vous tombez sur des trucs ahurissants.
Mm. Louis de Funès, ne parlez pas trop de moi, les enfants. C'est le livre de Patrick Louis de Funès. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission?
Ah, bah oui.
Hein, on va écouter Léon Mercadet, qui lit la presse. Hein, en l'absence de Marie Coleman.
Oui, alors.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la presse aujourd'hui, Léon?
Mais alors, j'avais trouvé des trucs, mais c'est pas forcément très, très drôle. Alors, on va essayer de le rendre drôle. Il y a un désert au fond de la mer. C'est dans Libération. Il y a un désert au fond de la mer. C'est pas très drôle parce que c'est un désert au fond de la mer Baltique. C'est-à-dire que, comme c'est une mer fermée, il y a tellement de nitrate et d'azote qui s'est déversé dans cette mer que ça a fait pousser. Ça a boosté la prolifération des algues. Les algues ont pompé l'oxygène qu'il y a au fond de la mer et ça a tout transformé en désert. Par exemple, il y a des dizaines de milliers de kilomètres carrés qui sont morts. C'est probablement irréversible. C'est la première mer qu'on voit muter comme ça, dans le sens muté plutôt...
Pas très bon.
Pas très bon.
Ouais, un peu triste, hein. Ouais.
Et alors, il faut quand même savoir que alors il reste du hareng et du saumon, mais le saumon de la Baltique, le fameux saumon de la Baltique, est aujourd'hui interdit d'exportation dans l'Union européenne. Dire les concentrations de métaux, de nitrates et de trucs qu'il y a dans cette mer. Donc le saumon de la Baltique n'est plus du tout une bonne étiquette. Alors il y a aussi un truc tragique, mais dont on peut... Bon, on va essayer d'en rire. C'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est comme aux États-Unis, il y a des armes en vente libre. Alors ils ont décidé d'interdire un peu la vente des guns. Alors, tout le monde en a parce qu'il y a une insécurité. Alors ils l'ont fait. Résultat des courses, les Sud-Africains blancs en tout cas, se précipitent sur les arbalètes, les sagaies, les armes du Moyen-Âge, les épées, les haches, puisqu'il n'y a plus d'armes à feu et que, comme il y a une parano sur la sécurité, alors les types expliquent d'ailleurs que les arbalètes, au fond, c'est mieux que les armes à feu, puisque les armes à feu, on peut identifier l'arme, les rayures et tout avec l'arbalète, c'est un carreau d'arbalète.
Faut-il savoir s'en servir?
Il faut savoir, non mais ça te prend comme ça une arbalète, ça se tire, et simplement ça laisse pas de trappe, il n'y a pas de rayures. Bon, voilà. Et alors, ce qu'il y a de franchement drôle, Non, en fait, c'est tragique.
Si je peux faire une petite parenthèse, là, je trouve que vous avez très bien ciblé, parce que était contre la guerre, contre les armes, et très engagé sur toutes les questions de l'environnement, c'est ça ?
Ah, ça, il était, c'était son obsession.
Bravo, ouais. Léon. Bravo, voilà. Léon.
Bon, ben, je suis tombé.
Il était amateur de hareng, alors il doit être furieux.
Et, voilà.
Et pas de saumon, juste du hareng.
Il
aimait le roll-bob, c'est une information importante.
Oui. Là, il aurait été catastrophé, il n'en dormait pas pendant 3 jours.
Bon, alors, il y a une dernière info. C'est la revue Men's Health, en titre, elles aiment le sexe sauvage, des récits hot, page 62.
C'est la vraie presse de Léon.
Je fonce sur le sexe sauvage et j'apprends des trucs aussi torride que il m'a attaché, il m'a parfumé aux phéromones, il m'a parfumé avec de l'huile. Oh là là là, on a pris la pause et alors
on a mimé un rodéo.
Pourquoi pas le faire en vrai si c'est vraiment du sexe sauvage et hot.
Et puis le
cerise sur le gâteau, c'est la 12e position, c'est nu face à moi. Il écoutait sa messagerie tandis que je me languissais.
Ça c'est le point du sauvage.
Vous écoutez votre messagerie sans rien faire, en érection quand même, mais sans rien faire, et la fille pense pas. Inversement. C'est un très bon sketch peut-être. Vous imaginez une Funès nue écoutant sa messagerie.
Il n'y avait pas de sexe dans les films.
Non, jamais. Non, c'est bien plus drôle.
Allez Stéphanie, leçon du jour.
Leçon du jour, c'est Andrew Bird and the Mysterious Production of Eggs. C'est un drôle de titre, c'est-à-dire Andrew Bird et la mystérieuse production d'œufs. Bon, mais ce qui n'empêche pas l'album d'être formidable. C'est le 6e album d'Andrew Bird, c'est de la pop, et on écoute la chanson numéro 4, Fake Palindromes.
Le livre de Patrick Olivier de Funès, Louis de Funès, ne parlez pas trop de moi les enfants, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Si vous êtes fan comme moi de cet immense acteur, vous allez découvrir un tas d'anecdotes et puis surtout la vérité sur ce personnage qui était extrêmement secret. Enfin, 22 ans après, vous nous racontez le vrai de Funès. Merci à tous les deux. Très bonne journée.
Merci.
Bon lundi de Pâques à tous. Profitez-en bien sous une pluie battante pour la plupart. Restez au chaud. Et on se retrouve demain matin, 7h-2, pour la matinale. Très bonne journée. Ciao. You're 6 foot tall and he's close friend.